Sir Richard Ames. Comment établir des relations d'amour? Un bonjour à vous tous. On me demande de vous informer que notre système de son fonctionne actuellement à l'aide d'une génératrice d'appoint et on me dit que celle-ci ne sera pas opérationnelle bien longtemps. Ainsi, lorsque le son sera coupé, j'ai bien peur que cela sera simultanément la fin de ce sermon. Cela me rappelle qu'en 1987, à Tulsa, en Oklahoma, j'ai également dû prêcher dans l'obscurité. C'était durant l'après-midi du dernier grand jour de la fête. Puis, 19 ans plus tard, la même chose m'est arrivée à Copper Mountain, au Colorado. Là encore, c'est arrivé durant le sermon de l'après-midi du dernier grand jour de la fête. Aujourd'hui, c'est donc la troisième fois qu'une telle chose m'arrive. Mais cette fois, je dispose au moins d'une petite lampe pour m'éclairer. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous tous qui êtes ici, de même qu'à tous nos frères de par le monde, au cas où ce message serait enregistré pour une rediffusion ultérieure. Vous savez, nous vivons en des temps passionnants, même si ce sont des temps qui nous donnent à réfléchir. Et comme Jacques nous y exhorte dans le premier chapitre de son livre, il nous faut regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Soyons donc reconnaissants d'être ici, en ce 8 octobre, à quelques jours de la fête des Tabernacles 2016, et ne perdons pas de vue que nous avons des frères en Haïti et ailleurs qui doivent, eux, faire face à des problèmes autrement plus graves que les nôtres. En mai 2016, à l'occasion du Memorial Day, une fête fédérale américaine qui commémore ceux qui sont morts sous les drapeaux, nous avons tenu, ici à Charlotte, la fin de semaine des célibataires. J'avais alors donné un sermon ayant pour titre « Éléments caractéristiques d'une bonne intimité ». Je voudrais à présent continuer dans la même veine. C'est pourquoi le sermon d'aujourd'hui a pour titre « Comment établir des relations d'amour ». Évidemment, comme nous sommes sur le point d'aller à la fête des tabernacles, nous allons avoir maintes occasions de nous pratiquer. Qu'est-ce qui caractérise des relations intimes ? Pourquoi nous faudrait-il chercher à développer des relations amicales avec d'autres? Quelles sont ces lois qui régissent les relations d'amour grâce auxquelles nous connaîtrons le succès, le bonheur et l'épanouissement personnel? Quel est le plus grand commandement dans ce merveilleux univers que Dieu a créé? Notre univers est en constante expansion et il est régi par des lois naturelles impressionnantes. Quelles sont les lois les plus importantes dans ce vaste univers? Reportons-nous à Marc, le chapitre 12. Je sais bien que vous connaissez tous la réponse à cette question, mais examinons-la tout de même, car le sujet est d'une si grande importance. Le sujet a rapport au but même de votre existence et à sa signification dans le contexte du plan de salut de Dieu et de la famille royale dont nous ferons bientôt partie en tant qu'êtres immortels. Marc 12, verset 28. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Et verset 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Considérez ce vaste univers avec ses galaxies innombrables, ainsi que notre système solaire autour duquel gravitent la Terre et d'autres planètes. Eh bien, dans ce grand tout, le plus grand commandement, la plus grande loi, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Verset 31, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Dr. Meredith a aussi abordé ce sujet du premier commandement dans le sermon numéro 649. Il érige l'amour en un grand principe divin, un commandement, qui s'applique à l'univers entier. Tournons-nous à présent vers 1 Jean, le chapitre 4. Le 18 juin 2016, Jim Meredith a donné un sermon, ici à Charlotte, qui avait pour titre « Aimez, craignez et servez Dieu ». Dans ce sermon, il soulignait le grand principe qui est essentiel au développement d'une relation d'amour satisfaisante. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ainsi, ceux qui disent aimer Dieu, comment doivent-ils prouver cet amour? Une des meilleures façons de le faire, c'est en aimant notre prochain comme nous-mêmes, à commencer par nos frères. Nos rapports d'amitié sont interreliés. Notre amour doit rayonner dans toutes les directions. Une façon de témoigner notre amour envers Dieu, c'est d'aimer notre prochain, et cela doit inclure nos ennemis, comme on le lit dans Matthieu 5, verset 44. Nous connaissons tous le but de notre vie. Nous savons tous quelle est l'incroyable destinée que Dieu nous réserve. Mais le monde est aveugle quant au but de la vie. Le christianisme traditionnel ne prêche pas l'avènement du royaume de Dieu. Pourtant, c'est ce que Jésus prêchait dans Marc 1, au verset 14 et 15. Le royaume de Dieu va venir, et c'est lui qui en sera le roi suprême. Et il nous a appelés pour que nous servions en qualité de roi et de sacrificateur dans ce royaume. Il m'est arrivé de réécouter une vieille émission radiophonique de M. Herbert Armstrong, où il disait que le royaume de Dieu est avant tout le gouvernement de Dieu. Ensuite, c'est aussi la famille de Dieu. Puis, après avoir réfléchi, il ajoutait, « Nous pourrions inverser cela et dire que le royaume de Dieu est la famille de Dieu et aussi le gouvernement de Dieu. » Nous connaissons donc la raison de notre appel, notre destinée. Tout cela repose sur un amour spirituel, des relations spirituelles. Nous nous préparons actuellement pour cette époque où nous serons nés dans la famille royale de Dieu en tant que ses enfants immortels, comme cela est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 15 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Cette destinée nous réjouit-elle? Certes, nous serons parfois soumis à des épreuves, mais cela ne devrait pas ternir notre joie, car nous comprenons le plan de Dieu. C'est lui qui dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Comment se manifestera cette vie abondante? Sur quoi sera-t-elle basée? Elle se basera sur des relations. La plus importante de ces relations sera celle qui existera entre Dieu et ses enfants engendrés, et aussi celle qui existera entre Jésus-Christ et ses frères et sœurs spirituels. Laissez-moi le répéter. La plus importante de ces relations sera celle qui existera entre Dieu et ses enfants engendrés, et aussi celle qui existera entre Jésus-Christ et ses frères et sœurs spirituels. Bien sûr, nous aurons aussi des relations avec d'autres êtres humains, tels que nos frères en la foi, notre parenté, nos voisins. Cependant, Dieu s'attend à une qualité toute particulière dans les rapports que nous aurons avec lui. Voyons Jacques, le chapitre 4. Monsieur Desimone a lu et souligné cette promesse de Dieu, à savoir que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Pour ma part, je voudrais plutôt mettre l'accent sur cette autre caractéristique d'une relation intime. Jacques, chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dieu attend de nous que nous ayons une telle qualité de rapport avec lui. » Nous avons des sermons qui élaborent sur ce même sujet. Par exemple, le sermon numéro 850, « Combien proche de Dieu êtes-vous ? » et le sermon numéro 939, « Caractéristiques d'une bonne intimité » que j'ai mentionné précédemment. Ainsi, Dieu s'attend à ce que nous soyons proches de lui, que nous le recherchions et que nous développions avec lui des liens d'amour. Comment pouvons-nous améliorer nos rapports avec Dieu et avec notre prochain ? Nous devons tous continuer à croître et à surmonter, car nous avons toujours cette nature charnelle en nous, et nous devons poursuivre ce processus qui fera que cette nature charnelle soit remplacée par la nature divine de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4, il est question de ces grandes et précieuses promesses qui nous sont faites, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine. Nous avons un statut particulier, non à cause de ce que nous aurions fait nous-mêmes, mais à cause de l'appel de Dieu et de sa grâce. Il nous a accordé un pardon immérité. Il nous a accordé le don de son Saint-Esprit qui nous permet d'être proches de lui. Pour ceux qui sont dans le monde, leurs relations sont motivées par l'égoïsme et souvent sujettes à des conflits amers. J'avais prévu de donner un long sermon avec 120 points, mais je vais devoir l'abréger considérablement, car je suis conscient du fait que notre système de son pourrait fort bien tomber en panne à n'importe quel moment. Je vais cependant énumérer certaines clés permettant d'améliorer une relation d'amour. Oui, quelles sont quelques-unes de ces clés qui permettent de développer et même d'améliorer des relations d'amour? La première de celles-ci consiste à rechercher Dieu. Et je viens tout juste d'expliquer en quoi consiste cette relation par excellence. Reportons-nous à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous allez finir par être persuadé que vous le connaissez vraiment, et ce ne sera pas simplement une connaissance superficielle. Voilà le type de relation d'amour que nous aurons. Elle sera intense et dynamique. Dans la conclusion de son sermon du 20 mai 2016, intitulé « Vaincre Satan et ses démons », Dr. Meredith écrivait: une chose que je veux que vous reteniez de ce sermon, c'est qu'il nous faut rechercher Dieu tout au long de la journée. C'est ainsi que vous allez remporter la victoire en définitive, que vous allez vaincre. Toujours dans ce sermon, s'adressant particulièrement aux jeunes, il posait la question: combien proche de Dieu êtes-vous? Efforcez-vous d'être en contact avec lui tout au long de la journée. Pensez à ce qui pourrait vous éloigner de lui. Puis il nous parle de M. Herbert Armstrong, qui avait parfois l'habitude de prier 30 à 60 fois durant une même journée. Certes, plusieurs de ses prières étaient brèves. Elles revenaient simplement à remercier Dieu pour de petites choses. Par ailleurs, nous savons que le prophète Daniel priait à genoux 3 fois par jour, même sous la menace d'être jeté au lion. Et puis nous avons aussi le psaume 55, où le verset 18 dit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Reportons-nous maintenant à Philippiens chapitre 4, verset 4, un verset qui, selon certains, aurait été le verset favori de Madame Loma Armstrong. Philippiens 4, verset 4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Ainsi, lorsque nous recherchons Dieu, nous avons avec lui cette relation dynamique qui réjouit le cœur. Il récompensera ceux qui le cherchent diligemment. Donc la première clé pour développer des relations d'amour avec Dieu consiste à rechercher Dieu continuellement. La deuxième clé pour développer de tels rapports et de connaître la personne avec qui vous voulez les entretenir. Informez-vous des détails de la vie de votre ami. Apprenez à connaître ceux qui font partie de sa famille et de son cercle d'amis. Voyons Jean, le chapitre 17. Ah, c'est vrai, j'oubliais, il ne vous est pas possible de lire votre Bible dans l'obscurité. Toujours est-il que dans Jean, chapitre 17, verset 3, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dans son émission télévisée du 17 avril 2016, intitulée « Puis-je vraiment connaître Dieu ?», M. Wallace Smith citait justement ce verset. « Oui, il vous est réellement possible de connaître Dieu, et cela est une bénédiction qu'il vous accorde. » Le 19 mars 2016, Dr. Meredith donnait le sermon intitulé « Le vrai Jésus-Christ ». Or, nous, frères et sœurs, nous avons ce grand privilège de connaître le véritable Christ de la Bible, pas le Christ aux longs cheveux qui aurait été ressuscité au lever du soleil le dimanche des Pâques. Non, celui-là était un faux Christ. Celui que nous connaissons est le véritable Christ, le dynamique Seigneur du sabbat, le Sauveur du monde, notre souverain sacrificateur. Je voulais mentionner dans le passé, M. Armstrong s'est souvent référé à ce livre de Bruce Barton intitulé « L'homme que personne ne connaît ». Bruce Barton était le fondateur de la célèbre agence publicitaire BBD&O, celle-là même qui faisait la promotion de notre magazine Le Monde de demain, ou plutôt La Pure Vérité. Nous avions un jour visité leur bureau d'Atlanta. Bruce Barton avait été perplexe lorsqu'il s'est rendu compte à quel point les gens ignoraient le véritable Jésus de la Bible. Il voulait en savoir plus sur la religion chrétienne, mais il ne pouvait pas voir de similitude entre le Jésus de la Bible et celui dont les adeptes de la chrétienté traditionnelle faisaient la promotion. C'est là ce qui l'a poussé à écrire ce livre. Dans ses pages, il décrit un Jésus qui maniait la varlope et la hache, un expert charpentier. Ce Jésus couchait parfois à la belle étoile et passait ses jours à marcher autour de son lac favori. Ses muscles étaient si bien développés que personne n'osa lui faire opposition lorsqu'il renversa les tables des changeurs dans le temple. Lui, un rabat-joie ? Non, au contraire, il passait pour l'invité le plus populaire de Jérusalem. Ses critiques lui reprochaient plutôt de passer trop de temps en compagnie de publicains et de pécheurs. Il aimait trop la société, selon eux. On l'accusait de trop apprécier le vin et la bonne chère. Bref, lorsqu'il eut fini de lire la Bible, Bruce Barton ne put s'empêcher de s'exclamer « Ce Jésus est assurément un homme que personne ne connaît. » Je crois vous en avoir parlé dans le passé. C'est à l'âge de 12 ans que j'ai commencé à me poser des questions à propos de l'existence d'un véritable Jésus. Je me mis alors à lire le livre de Matthieu, en particulier la section qui a trait au sermon sur la montagne. Un commentaire en particulier retint mon attention. Il se trouve dans Matthieu 5, verset 39, où il est dit « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Il y avait là de quoi étonner un garçon de 12 ans. Il me semblait que c'était un peu fou. En tout cas, c'était totalement contraire à la façon normale de procéder. À mesure que je poursuivais mon étude de la Bible, je me rendais compte à quel point ces enseignements exigeaient du courage. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle attendait de nous un comportement inhabituel en réponse aux provocations charnelles que nous subissions. Même si Dieu ne m'a finalement pas appelé avant l'âge de 25 ans, en rétrospective, je peux voir qu'il avait néanmoins commencé à travailler avec moi dès cette époque-là. Combien de choses savez-vous à propos de la vie de Jésus? Si vous mettez en pratique votre second point, vous voudrez en savoir plus à propos de vos amis. Alors, que savez-vous au sujet de Jésus? Connaissez-vous ses titres et ses noms? Selon Jean, chapitre 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Ésaïe 9, verset 5 dit de lui qu'il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et puis, il est le Sauveur du monde. Dans Jean, chapitre 4, verset 42, On parle de cette Samaritaine que Jésus rencontra près du puits et qu'il impressionna. Peu après, toute la ville vint au-devant de lui et fut pareillement impressionnée. Ils dirent alors à la femme, « Ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Cette même expression revient d'ailleurs dans 1 Jean chapitre 4, verset 14. Dans le livre de l'Apocalypse, à deux reprises, il est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Par ailleurs, il est notre souverain sacrificateur. Le livre aux Hébreux le mentionne plusieurs fois, à commencer par le chapitre 4 au verset 15. Il est aussi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, comme le dit Jean-Baptiste. Il est le pain de vie, selon Jean 6, verset 35, et Jean 6, verset 48. Enfin, il est bien sûr le Christ, le Messie. Combien de choses savez-vous à propos de cet ami divin? Je sais que Dr Meredith en sait long à propos de ses amis, car durant les déjeuners exécutifs que nous tenons ici au quartier général, il va souvent nous parler des antécédents de chacun de nos dirigeants. Il connaît leur dossier académique. Il est aussi capable de se souvenir des dates d'anniversaire de beaucoup d'entre eux. Et vous, combien de choses savez-vous à propos de vos amis? Dans son livre intitulé « Comment vous faire des amis et influencer les gens », Dale Carnegie écrivait « Comprenez-le bien. Pour une personne, entendre prononcer son nom est non seulement une expérience agréable, c'est aussi une chose à laquelle elle attachera beaucoup d'importance. Êtes-vous en mesure de retenir le nom des gens? Vous savez, il y a différents moyens de se souvenir du nom d'une personne. Il suffit de faire preuve d'un peu d'imagination. Encore une fois, efforçons-nous de retenir des détails à propos de nos amis. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 3, nous lisons « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. » Tâchons donc de retenir des événements particuliers ou des antécédents associés à nos amis. La clé numéro 2 qui nous permet de développer de bonnes relations, c'est d'en savoir plus à propos de nos amis. Clé numéro 3. Partagez votre vie. Par là, il faut comprendre qu'on doit accepter de s'ouvrir à ses amis. Oh, cela peut parfois comporter certains risques. Je crois vous avoir raconté ce qui s'est passé alors que je suivais cette formation destinée aux finissants de notre institution. J'étais alors inscrit à un cours de communication interpersonnelle. Il nous était demandé d'améliorer nos relations avec une autre personne. Bien sûr, j'ai alors choisi ma femme. À ce moment-là, nous avions été mariés pendant 12 ou 13 ans et je me demandais comment il me serait possible d'améliorer mes relations avec elle. Eh bien, une des méthodes préconisées par Pat McGiffin dans son livre intitulé « Communication interpersonnelle », c'était de s'ouvrir à l'autre. À la page 345 de son livre, on peut lire « Le degré d'implication entre deux personnes et fonction du montant d'informations personnelles qu'elles vont s'échanger. Pour qu'une personne devienne importante à vos yeux, il vous faudra apprendre des choses à propos de cette personne, des choses qui auront de l'importance pour vous. Refuser d'agir ainsi serait un handicap à l'épanouissement de vos relations. Si vous cherchez à avoir des rapports enrichissants avec votre partenaire, il faudra que chacun d'entre vous accepte de s'ouvrir à l'autre. Ainsi, votre façon de vous ouvrir à l'autre révélera le degré d'implication que vous avez avec cette personne. Il vous faut donc partager vos pensées et vos rêves, de même que vos objectifs personnels et vos expériences. J'ai commencé à appliquer cette méthode à ma femme, une chose que je ne faisais pas auparavant. du moins pas de façon régulière. J'avais l'habitude de pratiquer des sports. Lorsque j'étais à Big Sandy, chaque jour, après le travail, vers 5 heures du soir, les membres de la faculté se réunissaient pour jouer au basketball. Puis j'arrivais à la maison à 7 heures pour le souper. Après cela, il me fallait consacrer du temps à la préparation de mes cours du lendemain. Ce faisant, je ne passais pas assez de temps avec ma femme. Je me mis alors à changer mes habitudes, à partager avec elle davantage de mes pensées et de mes expériences, et cela tout au long de la journée, ce qui améliora grandement la qualité de nos rapports. Au fil des années, beaucoup d'entre nous ont vécu et partagé des expériences communes. Ainsi, lorsqu'eut lieu en 1979 cette crise qui opposa l'Église à l'État de la Californie, nous étions alors à Pasadena, et que les autorités eurent pris le contrôle de certains de nos bureaux, nous avions décidé de tenir des services religieux continus dans le hall de l'administration. Et lorsque vinrent les shérifs et la police, M. Wayne Pyle s'était courageusement placé à la porte d'entrée pour les empêcher d'envahir les lieux, disant « Vous ne pouvez pas entrer car nous tenons des services religieux. » Oui, certains ici ont vécu cette expérience. Mais l'Église en a connu d'autres. Ainsi, il y a eu cette perturbation à l'époque de l'Église de Dieu globale quand Dr. Meredith fut en quelque sorte évincé de son poste par le conseil d'administration de l'Église. Nous avions alors été contraints de repartir à neuf en tant que l'Église du Dieu vivant. Ceci eut lieu en novembre 1998. Nous n'avions alors ni bureau ni actif pour redémarrer. Cependant, 75 à 80% des ministres et des membres suivirent Dr. Meredith. Voilà donc une autre expérience que certains parmi nous ont en commun. Nous développons aussi des expériences communes lorsque nous souffrons. En effet, la première épître de Pierre ne dit-elle pas au chapitre 4 que lorsque nous souffrons, nous devons nous réjouir de la part que nous avons aux souffrances de Christ. Il nous faut donc partager nos expériences avec d'autres, mais aussi bien sûr avec notre Père céleste. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous développez une relation intime avec une personne en partageant votre vie avec elle. Combien plus cela est-il vrai quand vous le faites avec votre Père céleste, en lui confessant vos péchés? Efforcez-vous de mettre tout votre cœur dans vos prières. Le roi David nous en donne un parfait exemple. On peut dire de lui qu'il était plutôt audacieux lorsqu'il priait, mais dans le fin fond, il était convaincu que Dieu répondrait à ses prières. Par exemple, dans Psaume 13, verset 2, on le voit qui dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Dieu n'était pas menacé par les complaintes de David. C'était plutôt David qui se languissait de voir Dieu intervenir. Voilà pour la clé numéro 3 pour développer de bonnes relations. Voyons la clé numéro 4. Développez votre personnalité. Reportons-nous à Proverbes chapitre 16. Si vous parvenez à développer une belle personnalité, vous devenez du même coup un meilleur ambassadeur pour Jésus-Christ, un ambassadeur plus efficace. Pour certains, le fait d'investir dans l'éducation peut passer pour de l'égoïsme, mais je ne le crois pas. Après tout, la deuxième parmi les 7 lois du succès n'est-elle pas de se préparer et d'acquérir une formation dans le but de faire usage de cela pour servir Dieu et son peuple, ainsi que son œuvre? Mettons en pratique ces lois du succès. Et vous savez, développer votre personnalité peut faire partie de cela. Proverbe 16, verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Notre façon de communiquer avec autrui ne fera pas juste accroître notre savoir. Elle fera aussi accroître celui de notre prochain. Verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Comment votre personnalité affecte-t-elle les personnes de votre entourage? Êtes-vous prompt à offenser les autres? Hélas, il semble que certains soient portés à cela. En 1971, du temps de l'Église universelle, nous avions une brochure intitulée « Préparez-vous à être un roi ». C'était Dr. Meredith qui en avait écrit le contenu. Il se composait en fait de 5 articles. 1. Préparez-vous à devenir un roi. 2. Édifiez la personnalité d'un roi. 3. Développez le caractère qui convient à un roi. 4. Soyez un roi compatissant dans votre petit royaume familial. Et enfin 5. Comment développer les qualités d'un dirigeant? J'avais grandement apprécié cette brochure. On pourrait aussi mentionner cette anecdote qui nous vient de Dr. Meredith, alors qu'il revenait d'une tournée de baptême en compagnie de M. Raymond McNair. M. Armstrong avait lourdement insisté pour qu'il revienne coûte que coûte pour la cérémonie d'inauguration de la nouvelle année de l'Ambassador College. À cause de cette contrainte, ils avaient dû rouler toute la nuit pour arriver à temps. Et Roderick Meredith affichait une humeur plutôt orageuse lorsqu'il se présenta au campus. Alors qu'il s'apprêtait à faire part de son indignation à M. Armstrong, voilà que celui-ci se met à leur dire « Oh, je suis tellement content de vous revoir parmi nous. Nous ne pouvions pas envisager de procéder à cette cérémonie d'inauguration sans vous. Dès que l'événement sera passé, nous vous arrangerons de petites vacances dans les montagnes. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, nous sommes vraiment heureux de vous avoir de nouveau parmi nous. » Et Dr. Meredith de conclure. Avec une telle attitude de la part de M. Armstrong, toutes les frustrations que nous avions accumulées s'envolèrent comme par magie. Sa capacité de nous accueillir avec une telle chaleur humaine ne pouvait manquer de nous impressionner. Frères et sœurs, il nous faudra développer une telle personnalité si nous tenons nous aussi à entretenir des rapports d'amour avec notre prochain. De fait, le deuxième article de cette brochure, « Édifier la personnalité d'un roi », apparu dans notre magazine Le Monde de demain de février 1972, à la page 10. Oui, l'Église universelle de Dieu publiait un tel magazine à l'époque. Dans son article, Dr. Meredith écrivait, et je cite, « Dans le monde de demain, comme à notre époque, vous pouvez soit guider les gens, soit les pousser. Vous pouvez faire en sorte qu'ils veuillent vous suivre ou vous pouvez les forcer à le faire. Quelle est la méthode qui sera employée? Quand Jésus s'adressait à la multitude, il les motivait et frappait leur imagination. Les chefs religieux de l'époque ne lui cherchaient que des querelles. Ils étaient jaloux de lui et, simultanément, inquiets à l'idée qu'il pourrait gagner le cœur des foules. Voyez-le dans Jean chapitre 11, verset 48. Par ses enseignements et sa personnalité, Jésus exerçait une si profonde influence sur les gens que ses disciples firent cette remarque, Luc 24, verset 32. « Notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? La clé numéro 4 est donc de développer la personnalité d'un roi, de développer notre personnalité. Sur Internet, on peut se soumettre gratuitement à un test de personnalité. C'est le test Myers-Briggs. Peu importe le résultat de votre test, comprenez bien qu'il vous est toujours possible de changer pour améliorer vos performances. Le fait est, frères et sœurs, que nous avons tous des personnalités différentes. Nous devrons tous avoir le même caractère divin, saint et parfait, mais nous allons l'exprimer de diverses façons. Dr. Meredith a mentionné les différences de personnalité des apôtres. Ainsi, Jean et Jacques s'étaient mérité le sobriquet de « fils du tonnerre ». Quant à Pierre, il se montrait parfois un peu trop agressif et présomptueux. Jean était le disciple que Jésus aimait. Tous avaient donc des personnalités différentes, mais Dieu s'est servi d'eux pour accomplir la mission qu'il donnait à l'Église. S'il est avéré que nous avons des personnalités différentes, il est tout aussi vrai que nous avons aussi reçu des dons différents. Reportons-nous à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Puis au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Nous avons donc reçu différents dons. Et au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Et si nous consultons les versets 9 à 11, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ainsi, nous ne sommes pas tous des yeux, ou des oreilles, des genoux ou des coudes. Et cependant, tous, nous sommes serviteurs de Christ et devons développer nos personnalités afin de pouvoir en encourager d'autres à entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons tous reçu des dons différents, mais il nous incombe, bien sûr, non seulement de développer notre personnalité, mais aussi de croître en caractère divin. La clé numéro 4 était donc de développer notre personnalité. Clé numéro 5. Choisissez soigneusement vos amis. Reportons-nous à Proverbes chapitre 12, verset 26. Nos écoles ne sont pas un endroit trop accueillant pour nos enfants qui suivent nos normes, car nous leur avons enseigné une morale biblique qui contraste tellement avec l'esprit charnel qui sévit dans ce monde. Oh tiens, voilà que la lumière nous revient. Dans ce cas, il me sera possible de prolonger ce sermon d'au moins une heure, sans avoir à craindre d'épuiser nos batteries de secours. Profitons de l'incident pour mentionner que nous devons être des lumières pour ce monde, car Christ n'a-t-il pas dit « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre ». Encore une fois, la clé numéro 5 est « Choisissez soigneusement vos amis ». Proverbe 12, verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Pas tout à fait la même formulation que la New King James, mais en fin de compte la même bonne raison pour choisir soigneusement nos amis. Le 3 septembre 2016, dans son sermon à propos du livre des Proverbes intitulé « Conseils d'importance vitale », Dr. Douglas Winnell avait souligné le même point, à savoir que des personnes avisées vont user de discernement lorsqu'elles choisiront leurs amis. Qui sont vos amis? Les avez-vous choisis avec soin? Voyons Jacques, le chapitre 2. Savez-vous de qui Abraham était l'ami? Jacques, chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Dieu est-il votre ami? Christ, parlant des disciples, les appelait ses amis. Nous devons donc nous assurer d'avoir une telle relation intime avec Dieu. Ayons foi en lui. Obéissons et marchons avec lui. Tournons-nous maintenant vers Jean, chapitre 15 et le verset 13. Certes, il nous faut choisir nos amis avec grand soin. Mais nous savons bien sûr que notre plus grand ami est Jésus-Christ. Dieu appelait Abraham son ami. Nous pouvons élargir notre cercle d'amis. Et la qualité de nos relations peut s'améliorer si nous appliquons ces principes bibliques. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Plus tôt dans ce sermon, nous avons parlé de nous ouvrir aux autres, de partager avec d'autres des informations personnelles, tout en faisant preuve de prudence, bien sûr. Il est vrai que certains de nos jeunes sont allés à l'autre extrême sur les médias sociaux, divulguant beaucoup trop d'informations personnelles. Assurez-vous qu'en dépassant ainsi les limites du raisonnable, vous n'attirez pas la honte sur votre famille ou sur l'Église. Jésus, lui, avait partagé avec ses disciples les choses qu'il avait apprises de son Père. Verset 16, Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Y aurait-il certaines relations que nous devrions éviter? Nous avions parlé tantôt de moyens pour améliorer des relations. Maintenant que la lumière est revenue, profitons-en pour lire Proverbe 14, verset 7. Proverbe 14, verset 7. « Éloignez-vous de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. » Donc, oui, il y a des gens que nous devrions éviter. Salomon a été tout aussi catégorique sur ce point, car on lit dans Proverbe, chapitre 1, verset 10, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Nous avons par ailleurs reçu cette même exhortation dans une sermonnette de M. Desimone. Il nous faut donc résister à Satan et, durant la fête des tabernacles, nous assurer de rester proches de Dieu. Verset 15. « Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. » Donc, à nouveau, il est des relations que nous devrions éviter. La clé numéro 5 était donc de choisir nos amis avec soin. Passons maintenant à la clé numéro 6. Il en est question dans Jean le chapitre 10. Pour développer de bonnes relations, prenez l'habitude d'écouter attentivement. Ce faisant, vous accordez toute votre attention à l'autre. Vous lui témoignez du respect. Vous faites preuve d'amour. Je sais que j'avais des problèmes avec cela jadis. Je n'étais pas porté à écouter ceux qui me parlaient. Souvent, mes yeux allaient d'un endroit à l'autre, et ma femme me faisait alors la remarque que je donnais la très nette impression à mon interlocuteur que je ne lui accordais pas toute mon attention. Il nous faut écouter l'autre attentivement si nous voulons bâtir de bonnes relations. Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Apprenez à écouter attentivement. » Tournons-nous à présent vers Luc, le chapitre 8. Comment faisons-nous pour écouter la voix de Christ? Nous le faisons à travers les Écritures, par le biais du ministère et par nos interactions les uns avec les autres. Certains seront inspirés, d'autres nous aideront à passer à travers une épreuve ou à surmonter un problème. Luc 8, verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Prenons donc garde à la manière dont nous écoutons les autres. Écoutons attentivement. Cela améliorera la qualité de nos relations interpersonnelles. Voilà, ceci était la clé numéro 6. Nous voici rendus à la clé numéro 7. Faites preuve de compassion. Voyons 1 Pierre chapitre 3. Êtes-vous conscient de ce que les autres ressentent? On entend dire « Je comprends votre souffrance ». D'autres vont dire « Je ne pense pas que vous puissiez vraiment imaginer ce que je souffre. » Pour ma part, il m'est possible de prendre part à votre souffrance jusqu'à un certain point, car j'ai moi-même connu la souffrance. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Souvenez-vous que dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3, Dieu est appelé le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous faut donc avoir de la compassion et être conscient des épreuves que les gens traversent. Être conscient de leur état d'âme, de leur souffrance et des diverses émotions qui les agitent. Nous sommes certainement reconnaissants de l'amour et de la compassion que les frères de Charlotte se témoignent les uns envers les autres par leurs prières et les multiples services qu'ils se rendent. Nous l'apprécions beaucoup. 1 Corinthiens 12, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ainsi, lorsque l'un d'entre nous est honoré, nous nous sentons honorés avec lui. Nous ne devrions pas être jaloux si l'un de nous est promu à un poste dans l'Église. De même, montrons de la compassion, prions et soyons pleins de sollicitude à l'égard de nos frères d'Haïti qui ont été frappés par cet ouragan qui est survenu juste avant la fête. Donc, ayez de la compassion. Cela vous permettra de développer des relations d'amour avec votre prochain. Clé numéro 8 à présent. Cette clé pourrait être un défi pour certains, car elle nous demande de nous soumettre les uns aux autres et de nous servir mutuellement. Reportons-nous à 1 Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cela peut être difficile pour des adolescents ou de jeunes adultes qui s'imaginent qu'ils savent tout. Ils pourraient penser que leurs parents sont vieux jeu et détachés de la réalité. Vous devez faire attention à la façon dont vous catégorisez vos parents. Si vous êtes jeune et que vous avez des parents et des grands-parents, Profitez-en plutôt pour vous instruire auprès d'eux en leur posant des questions. Lorsque ma mère fit son AVC à l'âge de 80 ans, il devint impossible pour moi de continuer à lui poser des questions au sujet de notre famille. Elle venait fort heureusement d'une famille de 8 enfants, et c'est ainsi que j'ai fini par apprendre, de l'un de mes cousins, qu'elle avait été élevée sur une ferme qui comptait 365 pommiers. Par ailleurs, un de mes oncles ayant communiqué certains détails de sa vie à sa petite-fille, je fus ainsi en mesure de savoir qu'il avait joué de la trompette à l'époque où il était dans l'armée et que, de son temps, une miche de pain coûtait 10 cents. Je ne saurais trop encourager nos jeunes à interviewer leurs parents ou leurs grands-parents à propos de leur vie passée. Notez qu'il est dit au verset 5 « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis. » Voyons aussi 1 Pierre chapitre 2 verset 18. Pour ceux d'entre nous qui ont dû travailler dans le monde pour un contremaître ou un superviseur pas très commode, écoutez ceci. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Pas toujours facile, j'en conviens. Verset 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Il nous faut donc faire preuve de patience et de soumission, même lorsque nous devons servir ceux qui sont d'un caractère difficile. Puisque nous parlons de servir, quel est le plus grand exemple de service qui nous vient à l'esprit? Eh bien, il y a bien sûr cet exemple de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Ici, nous parlons du roi de l'univers, du sauveur du monde, du Messie, du Logos, de celui qui était Dieu, comme Dieu le Père, et par qui le Père avait créé toutes choses. Et pourtant, le voilà qui se baisse et qui commence à laver les pieds de ses disciples. Il y a aussi cet autre exemple dont il est question dans Luc chapitre 7, verset 44. Luc 7, verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. » Toute une scène. Ici, vous voyez cette femme en pleurs qui, par l'abondance de ses larmes, va laver les pieds de Jésus pour ensuite les sécher à l'aide de ses cheveux. Voilà un bel exemple d'adoration et de service. Reportons-nous maintenant à Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Revenons à Éphésiens chapitre 5. On y trouve notamment des instructions à propos des relations maritales entre hommes et femmes. Mais notez le verset 18. Éphésiens 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin. » c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous connaissez déjà la condition pour avoir des réponses à nos prières. Si vous demandez selon la volonté du Père, vous savez qu'il vous accordera ce que vous demandez. Eh bien, l'instruction que Dieu nous donne ici est donc d'être rempli de l'Esprit. C'est en fait un des points que je vais aborder plus tard. Mais voyons-le brièvement dès maintenant. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il nous faut donc être prêts à servir notre prochain. Le 3 septembre 2016, notre journal local, le Charlotte Observer, avait publié l'article suivant sous la rubrique des relations de bon voisinage. Il s'intitulait « Des anges au quotidien ». Un couple victime d'une crevaison est submergé d'offres d'assistance. L'article est un peu long, mais il mérite d'être lu. Alors je vais le résumer un peu. Voici. Ma femme, Wilhelmina, nous conduisait à l'église un dimanche matin, lorsque soudain, l'un de nos pneus subit une crevaison. Nous nous trouvions alors sur une voie qui menait au centre-ville. Après nous être garés le long de la route et avoir actionné les feux de détresse, une autre mauvaise surprise allait nous attendre. Nous avions tous deux laissé nos téléphones portables à la maison. Alors que nous étions là, ne sachant que faire, nous fûmes approchés par un jeune homme qui avait heureusement un téléphone avec lui. Cela nous permit d'appeler une dépanneuse. Avant son arrivée sur les lieux, d'autres belles surprises nous attendaient. Ainsi, plus d'une dizaine de personnes allaient s'arrêter pour nous offrir de l'aide. Certains nous proposèrent même de l'eau et se déclaraient prêts à nous conduire à une église qui se trouvait à proximité. Une personne qui tondait sa pelouse de l'autre côté de la rue traversa à deux reprises pour nous proposer son aide. Il y eut aussi ce couple âgé qui vint au-devant de nous et dont la femme étreignit la mienne en signe de compassion. Je fus réellement ému par tant de gentillesse et de chaleur humaine, d'autant plus que nous sommes des Noirs et tous ces gens étaient des Blancs. C'est d'ailleurs aussi pourquoi nous avons voulu rendre un hommage officiel à toutes ces personnes qui sont venues nous réconforter. Ceci encore une fois apparu dans le Charlotte Observer, notre journal local. La clé numéro 8 pour développer des relations d'amitié consiste donc à faire preuve de soumission et à se mettre au service des autres. Clé numéro 9. Montrez-vous respectueux envers vos semblables. Voyons pour cela Philippiens, le chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il nous faut donc montrer du respect envers autrui. Soyons courtois. J'ai passé du temps dans les forces armées, et lorsque je donnais des ordres, je m'attendais tout naturellement à ce qu'on les exécute promptement. En cela, je me comportais comme ce centurion dont il est question dans le Nouveau Testament. Oui, mais ma femme ne voulut pas accepter cette façon de faire, et j'ai donc dû apprendre à m'ajuster et à respecter les règles de courtoisie élémentaires, parmi lesquelles figurent au premier plan des mots simples comme « s'il te plaît » et « merci ». Avec ma femme, j'échange à présent de tels mots au moins une dizaine de fois par jour. Pour nous, la courtoisie est devenue une habitude qui nous aide à maintenir de bons rapports. Je pense aussi à cette lettre que Dr. Meredith a envoyée à nos co-ouvriers le 10 octobre 2005. Dans cette lettre qui faisait suite à une série de catastrophes naturelles, Dr. Meredith écrivait, et je cite, « Alors que je vous écris, j'entends à la radio comme à la télévision que des dizaines de milliers d'êtres humains ont péri lors de ces puissants tremblements de terre qui se sont produits au Pakistan et dans certaines parties de l'Inde. Il est probable qu'aucune de ces personnes ne connaissait Dieu, le Dieu de la Bible. Mais ne perdons pas de vue qu'aux yeux de Dieu, toute vie humaine est précieuse. » Frères et sœurs, nous devons aussi faire attention aux épithètes que nous attribuons à certaines personnes. On entend communément des gens se faire traiter d'idiots par d'autres. Notez à ce propos l'avertissement de Jésus dans Matthieu 5, verset 22. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le sang et drain. » En résumé, la clé numéro 9, qui mène à des relations harmonieuses, consiste à respecter son prochain en lui témoignant un amour divin motivé par la crainte de Dieu. Clé numéro 10. Priez les uns pour les autres. Et c'est ce que nous faisons. En effet, dans nos bulletins hebdomadaires, lus en assemblée, nous avons l'habitude de mentionner ceux qui sollicitent nos prières. Et vous savez, nos prières font une différence. Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Comme nous recevons constamment de nouvelles demandes de prière, et que la mémoire me fait souvent défaut, je me suis mis à dresser une liste de prières qui, à ce jour, contient au moins 130 noms. Évidemment, il faudra veiller à la maintenir à jour. N'est-il pas gênant, en effet, après avoir entendu parler de telle ou telle personne qui sollicite nos prières, de l'oublier ensuite parce qu'on a omis de la prendre en note? Vous vous souvenez peut-être de l'apôtre Pierre alors qu'il était en prison et comment l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous pourrez lire cela dans Actes chapitre 12, verset 5. Dr. Meredith l'a mentionné, le jour viendra où certains d'entre nous pourraient bien être jetés en prison, et il faudra alors prier pour eux à notre tour. Donc, la clé numéro 10 consiste à prier les uns pour les autres. Clé numéro 11. Soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18 nous exhorte « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Dans l'édition anglaise de mai-juin 2016 du Living Church News, Dr. Meredith a écrit un article intitulé « L'Esprit de puissance ». Il termine cet article à la page 20 en disant « Que Dieu nous aide tous à prendre la ferme résolution de nous rapprocher beaucoup plus de lui à cette époque particulière qu'est la Pentecôte. Que la puissance qui nous est disponible, à nous qui avons son Saint-Esprit, cette puissance par l'intermédiaire de laquelle il a créé les cieux, la terre et tout ce qui est, que cette puissance donc nous imprègne de plus en plus. N'oublions pas que l'Esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans cette même édition se trouve aussi un article de M. Peter Nathan, intitulé « La nécessité du Saint-Esprit ». Il écrit, et je cite, « Examinons sept raisons pour lesquelles nous avons besoin du Saint-Esprit. Premièrement, il nous le faut pour développer des relations conformes aux normes chrétiennes. Ce besoin de la présence du Saint-Esprit dans nos vies est particulièrement important quand il s'agit de la plus intime des relations, celle du mariage. » À la page 15 du même magazine, on lit « Le mariage est une métaphore différente de celle que Christ utilisa durant la Pâque. À cette époque-là, il avait dit à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins. À présent, par contre, nous nous préparons pour une toute autre relation avec lui. En effet, collectivement, nous nous préparons à devenir l'épouse de Christ à son retour. Pour y arriver, qu'est-ce qui est essentiel? Il nous faut le Saint-Esprit. Sans lui, la porte restera close et nous serons exclus. Sans lui, nous serions des orphelins abandonnés à nous-mêmes. » Évidemment, cela fait penser à la parabole des dix vierges de Matthieu 25, notamment au verset 11 à 13. « Quand la trompette sonnera, nous nous attendrons à être admis aux noces de l'agneau. » Enfin, nous voilà arrivés à la clé numéro 12, qui est de participer à la mission de l'Église. Nous connaissons tous la mission en sept points que Dr. Meredith nous a donnée en tant qu'Église. Voyons notamment ce que dit à ce propos Jean 4, verset 34. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'était la mission que Jésus s'était donnée. Il avait la passion de faire la volonté de Dieu et de terminer son œuvre. J'espère que nous partageons tous cette même passion, particulièrement nous ici à Charlotte, où nous jouissons d'une si bonne coopération de la part de toute l'équipe qui est sur les lieux. Dans son éditorial de juillet-août 2016 de notre magazine Le Monde de Demain, intitulé « Sommes-nous prêts pour l'intervention divine ?», Dr. Meredith écrivait « Le message doit être proclamé. Nous devons aller de l'avant avec toujours plus de puissance et continuer de proclamer ce message essentiel tandis que les ténèbres s'abattent progressivement sur ce monde. » Ainsi, lorsque ces choses auront lieu, et ce sera bientôt, nous pourrons être éternellement reconnaissants et remplis de joie parce que nous verrons notre Sauveur et notre grand frère revenir pour nous accorder le don de la vie éternelle. Ce message doit donc être proclamé, et Dieu merci, il l'est, et vous l'entendez, et vous pouvez appuyer nos efforts pour le diffuser, car vous faites partie de cette œuvre. La clé numéro 12 pour développer de bonnes relations, c'est de remplir la mission donnée à l'Église. Pour récapituler, dans ce sermon, nous avons vu le but que Dieu poursuit pour l'ensemble de l'humanité. Il s'attend à ce que nous développions de bonnes relations pendant cette vie et pour toute l'éternité. Il attend de nous que nous fassions bon usage des bénédictions qu'il nous accorde. Il nous a donné les deux grands commandements qui révèlent sa façon de vivre, sa voie d'amour. Ces commandements nous montrent comment établir des relations en Christ. Lorsque nous nous approcherons de Dieu, il viendra au-devant de nous. Alors que nous développons des relations d'amour, nous devons aimer notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ plus que toute autre personne ou n'importe quoi d'autre dans le monde. Laissez-moi le répéter. Nous devons aimer notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ plus que toute autre personne ou n'importe quoi d'autre dans le monde. Nous avons brièvement abordé 12 clés qui permettent d'établir des relations harmonieuses. 1. Recherchez Dieu. 2. Apprenez à connaître l'autre personne. 3. Partagez votre vie. 4. Développez votre personnalité afin d'en aider d'autres à entrer dans le royaume. 5. Choisissez vos amis avec grand soin. 6. Écoutez attentivement. 7. Faites preuve de compassion. 8. Soumettez-vous les uns aux autres et rendez-vous mutuellement des services. 9. Montrez du respect les uns envers les autres. 10. Priez les uns pour les autres. 11. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et enfin 12. Faites votre part pour accomplir la mission de l'Église. Pour terminer, reportons-nous à Jean, le chapitre 15. Nous y voyons décrite la magnifique et intime relation que nous avons avec Dieu le Père et avec Christ. Jean, chapitre 15, verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. » Verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, « demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, frères et sœurs, attachons-nous au cep en cultivant une relation très intime avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ. Laissons-nous davantage pénétrer par l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. C'est là la puissance qui anime l'univers, la plus grande puissance qui puisse nous assister pour développer des relations d'amour. Dieu est amour. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de bâtir cette relation d'amour avec lui et avec notre Seigneur et Sauveur. Continuons donc de nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Cela nous permettra de nous réjouir en participant à la plus belle de toutes les relations. Dans les semaines à venir, lorsque nous voyagerons et serons amenés à rencontrer des frères d'autres congrégations, ne manquons pas de développer des relations d'amour avec eux selon le modèle divin. Réjouissons-nous de ce que le royaume de Dieu est proche. Réjouissons-nous dans l'attente de la famille royale divine qui sera marquée par des relations intimes et harmonieuses. Réjouissons-nous de son amour éternel.